La semaine dernière, Guy, j'avais demandé à Guy de vous informer de pouvoir lire dans Luc, donc le dernier verset donc, de Luc, de l'évangile de Luc, le verset 24, enfin le chapitre 24. Et j'espère que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas grave, vous allez pouvoir suivre. En fait, à partir d'aujourd'hui, là, nous allons entamer le livre des Actes. Mais dans les livres des Actes, en fait, les premiers versets, c'est vraiment la conclusion. Enfin, c'est vraiment le comment dirais-je, synthétiser, en fait, Luc a synthétisé ce qu'il a voulu dire dans l'évangile de Luc au dernier chapitre. Voilà. Donc, nous allons commencer à lire et à étudier donc, le livre des Actes. Ce livre est le commencement de la fin, c'est-à-dire le commencement d'une nouvelle ère, la fin de la domination du péché et la vie par l'Esprit. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc cette bonne nouvelle va être transmise jusqu'aux extrémités de la terre. Hein? Donc d'abord, donc on va commencer. Voilà. Mon titre, c'est « Le début d'une nouvelle ère ». Et j'ai mis un petit plan. Donc, on va commencer donc, sur une introduction au livre des Actes. Après l'introduction, donc, je vais parler des 40 jours après la résurrection. Donc, il s'est passé quelque chose entre la résurrection et l'ascension, la promesse de Dieu et quel impact sur nos vies. Donc je vous invite à ouvrir votre Bible dans Acte 1. Acte 1, et nous allons lire les 14 versets. Je les ai là. Acte 1, de 1 à 14. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, ils leur apparurent vivants et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote, et Judée, fils de Jacques. tous d'un commun accord persévéré dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ainsi est la parole. Donc, voilà l'introduction. Donc, comment se situe l'histoire des actes de la Bible ? Le livre des actes est le premier livre de l'écriture où les païens entrent en scène. Depuis le jugement de la tour de Babel dans Genèse 11, la Bible ne s'occupe plus de l'ensemble de l'humanité. Tout l'Ancien Testament est consacré au peuple juif grâce à l'alliance que Dieu a faite à Abraham. Même dans l'Évangile, c'est encore Israël qui occupe presque toute la place. Jésus envoie ses disciples en leur disant, écoutez, n'allez pas vers les païens, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 10, 5, 6. Et il le répète à la Cananéenne, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens, les païens. Matthieu 15, 24, 26. De son côté, Paul nous rappelle et déclare que ce moment-là, les païens étaient sans Christ. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens 2, 11. C'est dans les actes que pour la première fois, le salut est apporté aux gentils. C'est là que nous entrons en scène. Écoutez, je lis dans Actes 10, 44 à 47. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? Fin de la parole. Les actes sont donc à ce point de vue comme une charnière dans la Bible. Un tournant d'une importance capitale. Le livre des actes marque le début d'une nouvelle période biblique. Voilà. Dans l'Ancien Testament, nous avons la période du Père, centrée sur le peuple d'Israël. Dans les Évangiles, c'est la période du Fils, où Dieu est avec nous. C'est le sens du nom Emmanuel, Matthieu 1, 23. Dans les Actes, comme commence la période du Saint-Esprit, où Dieu est en nous. C'est vraiment très schématique, mais c'est un peu... C'est un peu ça. Les actes sont la transition indispensable entre les évangiles et le reste du Nouveau Testament. Le livre des actes est le livre historique du Nouveau Testament. Ce livre est le principal et la principale source d'information de l'Église apostolique du premier siècle au travers de l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous fait juste un rapport de la naissance de la croissance de l'Église pendant environ 30 ans. Ce livre nous donne aussi les principes nécessaires au travail missionnaire. Il nous donne un début d'esquisse de modèle de gouvernement de l'Église et pose les bases de la doctrine qui sera plus tard développée dans les Épîtres. Les apôtres sont transformés. Les Églises commencent à être fondées partout. Les païens y ont été admis et sont transformés aussi. Ils deviennent de plus en plus nombreux, les Juifs sont freinés, aveuglés par Dieu, et l'évangélisation du monde romain est extrêmement avancée. Or, tout cela n'est explicable que par le récit des actes. Maintenant, penchons-nous sur l'auteur du livre. Qui est l'auteur du livre ? Luc est l'auteur du livre, des Actes, mais aussi du troisième évangile, comme l'indique la comparaison des Actes dans 1:1-2 et Luc 1:1-4, tous deux dédiés au même Théophile. Aucune indication n'est fournie dans l'évangile sur l'identité de Théophile, si ce n'est la signification de son nom qui veut dire en grec « ami de Dieu » ou « aimé de Dieu ». Qui est Luc ? Il nous est rapporté dans Colossiens 4:14 qu'il était le médecin et collaborateur de Paul dans Philomon 24. Quelle est la méthodologie ? Dans Luc 1:14, Luc dit, écoutez, « Ceux qui ont été des témoins oculaires dans le commencement et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Il m'a donc paru bon à moi aussi, qui me suis soigneusement informé sur toutes ces choses, dès l'origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Luc s'est soigneusement documenté, ayant fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, il est dit. Il les expose par écrit d'une manière suivie et non à bâton rompu, pour en établir la certitude. Il écrit d'une manière scientifique avec un style journalistique et littéraire, parfaitement compétent, et sans parler de l'inspiration divine qui le guide. On voit qu'il est sobre et pratique dans ses exposés, précis dans le détail, comme cela est naturel, étant donné sa profession de prendre soin de l'autre. Luc a-t-il participé dans le livre des Actes ? Son nom ne figure nulle part, mais remarquez le changement de pronom dans les Actes. Dans Actes 16, 8 et 10, ils descendirent à Troas. Nous cherchâmes aussi à nous rendre en Macédoine. Partout où ce pronom nous intervient dans le récit, il indique la présence de Luc. Luc est donc lui-même un témoin oculaire. Il est croyant et un missionnaire qui connaît les personnes et les lieux dont il parle. Il s'adresse à nous avec une compétence qui lui donne une grande autorité. Le but du livre des Actes est le même que celui de l'Évangile. Dans l'introduction de l'Évangile, Luc dit que son but est de rendre complètement compte de la vie et du ministère de notre Seigneur. Il dit qu'il avait fait un rapport exact et que son but était de bien faire un rapport historique exact. C'est encore son objectif lorsqu'il écrit le livre des Actes. Le livre des Actes fait le récit de ce que Jésus continue à faire en répandant le Saint-Esprit de la part du Père pour pouvoir agir par lui à travers les apôtres et les autres serviteurs. Ces aventuriers, poussés par une puissance céleste, vont changer quelque chose dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces 40 jours ? Allons gratter et voir. Les premiers livres des Actes nous racontent le résumé du chapitre 24 du livre de l'Évangile de Luc. Luc raconte les 40 jours que Christ a passés sur la terre après sa mort, dans son corps ressuscité, avec lequel il est apparu à ses disciples. Ces 40 jours représentent pour nous, en tant que chrétiens, la période qui s'étend de la résurrection à l'ascension. La foi que nous avons en Jésus-Christ est fondée sur cet événement, qui est la résurrection. Elle représente un grand enjeu, finalement, pour nous. En tant que chrétiens, qu'est-ce qui nous dit que cet événement est vrai ? En effet, dans la Bible, la résurrection est le cœur de la foi chrétienne, au point que Paul nous le rappelle. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. 1 Corinthiens 15, 17. Elle est un grand enjeu aussi pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens. La question qui se pose pour chacun, et si c'était vrai? C'est une des plus grandes questions existentielles que tout homme doit se poser. Si cela est vrai, il y a maintenant quelque chose de meilleur, et cela est bouleversant. Nous arrivons maintenant au matin de Pâques, à la première aurore. Le tombeau était vide, la pierre était roulée. C'était un nouveau jour, un jour tout à fait spécial où quelque chose de tout neuf a fait éruption par la grâce de Dieu. La résurrection s'est déroulée le jour de la Pâque, une fête juive à l'origine. Pâques est pour les chrétiens le message du passage de la mort à la vie de Jésus. C'est une résurrection historique. Le Christ est vivant. Dieu l'a ressuscité. Pâques pour nous est un jour de fête de la vie. Il y a de la lumière dans cette fête, un jour de bonté, un jour de joie. Mais pourtant, nous voyons au dernier chapitre 24 de l'évangile de Luc. On est au premier jour de la semaine de la résurrection. Ce n'est pas la fête de la vie, ce n'est pas la joie, c'est la crainte, le doute. Regardez avec moi au verset 5. Les femmes étaient saisies de frayeur. Au verset 12, nous voyons Pierre qui était étonné ce qui est arrivé. Au verset 21, la déception totale de ses deux disciples. Au verset 37, les disciples étaient saisis de frayeur et d'épouvante. Les disciples de Jésus sont donc sous le choc. Ils n'ont plus rien à faire à Jérusalem. Ils se dispersent et ils entrent chez eux. Ils ne comprennent pas ce qui est arrivé à Jésus. Sur le chemin d'Emmaüs, deux disciples discutaient de tout ce qui s'était passé. Imaginons ce qu'ils pouvaient se dire. Ce Jésus qui avait l'air d'être le Messie parmi nous, qui délivrerait Israël. Pourquoi Jésus est-il mort? Comment cela a pu-il se produire? Ils ne comprennent pas le contraste de Jésus qui a été accueilli à Jérusalem avec des foules quelques jours plus tôt, avec des acclamations de Jésus qui enseignait dans la synagogue, qui guérissait des malades, qui nourrissait des foules entières avec 5 pains et 2 poissons. Et qui a même ramené à la vie son ami Lazare. Ils ne comprennent pas comment ce temps passé ensemble avec Jésus, acclamé en puissance, et puis ça se termine par sa condamnation et sa résurrection et sa crucifixion entre deux brigands. Mais voilà, tout s'effondre. C'est tragique. Le cœur des disciples sont remplis d'une immense tristesse mêlée d'une incompréhension totale. Et pourtant, ces disciples ont vécu 3 ans d'enseignement avec Jésus, qui leur annonçait sa mort et sa résurrection et qu'il fallait qu'ils souffrent. Jésus de Nazareth était le prophète dans lequel beaucoup de personnes avaient placé leur espérance pour qu'il délivre Israël. Les disciples avaient certainement l'idée d'un sauveur qui viendrait en conquérant pour assaillir les ennemis d'Israël, les Romains. L'idée d'un sauveur qui viendrait abolir complètement l'impérialisme de César. L'idée d'un sauveur qui viendrait établir son royaume. Est-ce que nous ne réagissons pas comme les disciples, parfois? Malgré ce que Dieu nous annonce ou nous promet dans sa parole, Est-ce que nous faisons vraiment confiance à Dieu? Nous sommes parfois remplis de peur dans les épreuves, dans le monde séculaire, dans le monde aussi professionnel, et etc. Nous luttons par nous-mêmes, avec nos propres forces, et nous nous épuisons en pensant que nous allons nous en sortir par nous-mêmes. Nous sommes souvent aveuglés, comme les disciples, sans espoir de notre propre foi. Les évangiles nous racontent le rejet du Christ et la faillite apparente de son ministère. Malgré la résurrection ignorée du plus grand nombre, il ne reste qu'un tout petit groupe de disciples apeurés. Il n'y a pas de païens convertis parmi eux, et les perspectives d'expansion mondiale du message de Jésus semblent nulles. Mais Dieu a un plan. Regardez avec moi au verset 8. Et là, nous arrivons au pic, au sommet du message de la fin de l'Évangile et le début des Actes. L'annonce d'une promesse. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit leur sera envoyé dans la plénitude par la grâce de Dieu. Et vous serez mes témoins jusqu'à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La promesse accomplie, le début d'une nouvelle ère. Il y a trois points que nous devons spécialement nous arrêter. Le premier, voilà, le mot puissance. Le mot grec ici a la même racine que le mot dynamique. Elle exprime une puissance explosive qui amène l'évangile à exploser partout dans le monde. Deuxième, c'est témoin. Mais qu'est-ce qu'un témoin? Au sens le plus courant, c'est un mot utilisé dans la justice pour désigner quelqu'un qui a vu un événement, une situation ou entendu quelque chose et qui peut le certifier en attestant la vérité devant un juge ou devant une autre personne. De Jérusalem aux extrémités de la terre, ce mot veut dire tout simplement l'Église doit témoigner à Lyon et dans le monde entier. Mais une question se pose. Mais pourquoi les disciples avaient besoin de cette puissance? Pourquoi les disciples avaient besoin de cette puissance pour la tâche qu'ils vont accomplir? Jésus savait, il le savait pertinemment, que ses disciples devaient recevoir le don céleste. Que l'évangile ne serait efficace que s'ils étaient proclamés par des cœurs brûlants et des lèvres animées. Et cela grâce à cette réelle connaissance de celui qui est le Tout-Puissant. Les disciples doivent recevoir une grande puissance pour pouvoir affronter celui qui est le redoutable, le mal qui rôde comme un lion. Les disciples ne peuvent pas lutter pour le bien qu'avec la puissance de Dieu. Par l'Esprit, pour qu'ensuite la parole puisse être propagée à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. En étant poussés par la puissance du Saint-Esprit, qui agit maintenant au plus profond d'eux-mêmes, ils vont pouvoir témoigner sans crainte de quoi que ce soit, avec amour, fermeté et autorité. Du Dieu Tout-Puissant. Voilà la raison fondamentale de Dieu pour laquelle il fallait que sa promesse s'accomplisse. Il était donc nécessaire de désigner des témoins pour réunir et guider son peuple après son propre départ physique de la terre. Ils allaient être responsables de transmettre aux générations suivantes toute la vérité sur la personne et l'œuvre de Jésus. Les disciples ont vu partir le Seigneur Jésus au ciel. Deux anges leur apparurent et il leur dit, Jésus reviendra de la même manière. Et nous aussi, nous le verrons personnellement, visiblement et corporellement comme il est parti. Nous attendons encore ce jour, aujourd'hui, au XXIe siècle. Les disciples, par la foi, reçurent un précieux encouragement. Après avoir reçu le message des anges, ils retournèrent à Jérusalem, dans la chambre haute où ils demeuraient, les 11 apôtres, dans le nom sont donnés au verset 13. Là, ils persévéraient d'un commun accord dans la prière. Avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et les frères, au verset 14 de Jésus, c'est là, dans ce lieu, retiré, en dehors du monde et de son agitation, écarté de son influence, que les disciples pouvaient librement faire monter à Dieu leur prière. En attendant à Jérusalem la venue du Saint-Esprit selon la promesse du Seigneur. Nous pouvons percevoir que Marie, la mère de Jésus, n'est ni plus ni moins comme les disciples, de nature pécheresse, sauvée par l'œuvre de la croix, dépendant de Dieu, comme un autre disciple. Maintenant, les disciples ont cette certitude qu'ils vont recevoir cette promesse, une puissance qu'est le Saint-Esprit. Et les perspectives d'expansion mondiale du message de Jésus vont être annoncées. Le début d'une nouvelle ère. Jésus a décrit l'Esprit qui viendrait après son départ. Il dit, écoutez, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom nous enseigne toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La promesse de l'envoi du Saint-Esprit s'adresse aux disciples, comme à nous, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons aussi le privilège. Donc, quel est l'impact, en fait, sur nous? Nous avons ce privilège, comme les disciples, pour chercher la présence du Seigneur dans un lieu qui correspond à la chambre haute, hors du monde agité de toutes ses formes religieuses. Jésus a dit... Car là où deux ou trois seront assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, verset 20. C'est ce que nous avons fait ce matin. Et c'est ce que nous ferons toute la semaine. Il nous a été répété par Jérémie. Dans les réunions de groupes de quartier, dans les groupes de croissance, dans les foyers en famille, et dans nos cultes personnels, en persévérant, nous ferons monter nos prières d'adoration, de reconnaissance et d'intercession. C'est pourquoi la prière est si importante. Le Seigneur écoute celle des petits-enfants comme celle des grandes personnes. La prière est unique ressource dans tout le temps et dans toutes les circonstances. Le Saint-Esprit a beaucoup de choses à te dire. Il peut te donner de la force, de l'aide, du réconfort et te guider. Mes chers frères et sœurs, nous avons notre témoignage au quotidien, au travail, dans nos familles, dans l'Église, comme les disciples. Nous pouvons avoir cette crainte. Cette peur, nous pouvons être effrayés, mais ce que Dieu veut pour chacun de nous, c'est que nous soyons semblables à son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Comment je peux apporter mon témoignage si je n'ai pas saisi toutes ces paroles, si je n'ai pas une vie personnelle avec Dieu? Comment? Le Créateur de l'univers et de la terre nous a donné un moyen. Et ce moyen, vous le connaissez, certainement, c'est sa parole et la prière. C'est au travers de sa parole et la prière que Dieu se révélera à toute personne qui le cherche du fond de son cœur et transformera son cœur. Cette transformation se fera progressivement par le Saint-Esprit. Et là, mes chers amis, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Un nouvel être va naître. Mes craintes, mes doutes, mes pensées, ma façon d'agir sont complètement différentes. Il y a quelque chose de nouveau. Je ne vois plus les choses comme avant. Je les vois différentes. L'Esprit Saint, qui est Dieu, vient façonner notre être profond en l'être de Christ, selon la promesse de Jésus. Cette présence n'est pas un processus d'acquisition ou de fabrication personnelle. C'est le Christ mort et ressuscité qui se communique à notre vie. Et cette vie devient une vie dans l'Esprit. Et là, je prends du plaisir à louer Dieu. La lecture et la prière deviennent une nourriture spirituelle, quotidienne et essentielle pour mon bien-être, en me laissant habiter pleinement par l'Esprit de Jésus-Christ. Je ne suis plus dans le faire par moi-même, mais dans l'être de ce que Dieu veut pour moi. Je suis en mouvement, poussé par l'Esprit pour proclamer dans l'amour la bonne nouvelle avec joie. Amen.